Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quel est numéro 10 dans mon podcast?
C'est parti, hein. T'es prêt?
Ouais, je suis. Allez.
T'es prêt?
Ouais.
On est avec Benjamin.
Coucou.
Benjamin, plus connu sous le nom d'artiste.
Ouais, artiste. L'artiste, tout le monde m'appelle l'artiste.
C'est vrai?
Ouais, ouais.
Putain.
Je chante un morceau qui s'appelle Sexy Raffiné. Mais c'est ça son titre, je crois.
Ouais.
Ouais. Je l'ai appris il y a deux jours. Que déjà cet artiste existait et qu'en plus son morceau existait aussi.
Ouais, c'est clair.
Je trouve ça pas mal.
Nous sommes donc avec Wax, parce que bon, faut arrêter de déconner.
Ouais.
Wax, tu sors ce qui est ton premier album.
Ouais.
Solo.
Solo.
De toute ta vie.
De toute ma vie.
Comment ça se passe?
Bah, comme tu peux voir, déjà la promo, je suis pas vraiment habitué.
C'est fou, mais c'est toi qui as dit j'aimerais bien qu'on fasse une interview. Donc tu t'es quand même mis toi-même dans ces situations-là, dans cette situation, c'est pas grave.
Il y a mon équipe qui me fait des signes derrière moi.
Non, mais c'est très bien.
D'enlever la couronne,
mais non, tu peux enlever ta couronne si tu veux. Tu sais, c'est la couronne de Queen Camille normalement.
C'est qui?
Queen Camille, c'est la reine du sexe.
Ah bon, bah. Moi en plus, je suis pas non plus exceptionnel donc. Je me suis mis dans cette situation. Bah, en fait, c'était un mélange entre une envie et une nécessité. J'avais vraiment besoin à un moment de prendre un peu de temps pour moi et d'exprimer plein de choses que j'avais pas pu exprimer parce que je travaillais beaucoup pour les autres. Et du coup, ça a été une sorte de thérapie qui a été jusqu'à maintenant ultra bénéfique pour moi.
Pourquoi tu avais besoin d'une thérapie? On est là pour poser les vraies questions ici.
Ouais, t'es pas là pour rigoler. Qui fâche,
ah, bah oui, ça c'est.
Je pense que n'importe qui a besoin d'une bonne thérapie. En fait, c'est pas vraiment une bonne thérapie, c'est plutôt un espèce de bilan global et aussi une remise en question. Je trouve ça important de se remettre en question, souvent. Et du coup, c'était un passage un peu obligatoire pour passer un peu à l'âge adulte.
T'es tellement adulte depuis longtemps, non?
Je sais pas.
Pourquoi il me pose ces questions, putain?
Non, j'y arrive vraiment pas à me dire que je grandis. J'ai un peu de mal avec ça, avec ce concept-là de grandir. D'avoir des responsabilités, de faire plein de trucs et tout.
T'as plein de responsabilités de cette là.
Mais oui, j'en ai plein, je sais. Non, la vérité, c'est que surtout, j'avais besoin de me remettre en question artistiquement aussi, ouais. Savoir où j'en étais. En fait, c'est parti d'une envie qu'on a eue à deux avec Mathieu, avec qui j'ai réalisé cet album, et Chris. En cours de route, Mathieu est tombé très malade et donc du coup cet album est devenu assez très important pour nous, voilà. C'est-à-dire qu'à la base c'était un album parmi tant d'autres qu'on pouvait réaliser au studio, malgré le fait que c'était moi qui l'interprétais. Mais ça, à la limite, c'était pas...
Vous bossez souvent ensemble avec Mathieu?
Alors, on bossait souvent ensemble avec Mathieu parce que Mathieu est décédé pendant la réalisation de l'album.
My God.
Ouais. Et l'album lui est dédié.
Ouais.
Bah, c'était 10 ans de travail ensemble, c'était tout ce qu'on faisait ensemble, tout ce que les gens ont pu voir de moi, que ce soit le comité des reprises, tout, c'était lui qui était derrière. Donc voilà, en fait, il y a eu plusieurs moments où on a voulu arrêter en fait le process de l'album, et en fait c'est devenu quelque chose de nécessaire, quoi. On est allé au bout et donc on y a mis tout l'amour qu'on pouvait dans cet album. Ça a été une libération de le sortir, et à côté de ça une angoisse terrible de c'est l'une des rares œuvres à laquelle j'ai participé. J'aurais vraiment du mal à lire des commentaires négatifs dessus ou des choses comme ça, parce que ça m'est tellement personnel que je me suis mis un peu un bouclier là-dessus et du coup j'essaie de faire je le défends au maximum, mais en espérant qu'il plaise, quoi. Mais je parle beaucoup là.
Mais c'est le concept, hein.
Ouais, tu me diras.
T'es venu pour ça.
Ouais.
T'es venu pour ça. Ok, donc t'as perdu ton pote.
Ouais.
De.
Ouais, on a perdu depuis... notre. Bah, qu'on... Ouais, ça. C'était c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 10 ans, avec qui j'ai réalisé énormément d'albums pour beaucoup d'artistes. On a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'était plus qu'un collègue, c'était vraiment genre c'était mon binôme. Donc on faisait tout ensemble. Sa maladie l'a emporté très vite. Et donc ça a été assez soudain pour nous. Et donc avec Christopher, avec qui j'ai chanté... une chanson tout à l'heure pour vous.
Vous mettrez le lien dans la description. Wink wink.
Voilà. Mm-hmm. Are we intoxicated? Are we all blind? You're the only light on the dark side. On défend cet album à deux, on fait tout à deux, on a terminé l'album à deux. On lui avait envoyé un mail avec des notes à droite à gauche, de trucs qu'il aurait changé lui, etc. On a eu la chance qu'il nous réponde avant qu'il nous quitte. Et donc on a suivi à la lettre ses recommandations. Alors que s'il avait été en studio, on aurait peut-être débattu, peut-être qu'on n'aurait pas été d'accord, je sais pas. Mais du coup, voilà, c'est... C'est aussi pour ça que l'album s'appelle Fantôme. Pas que, mais c'est en partie pour ça.
Tu disais que tu avais besoin d'une bonne thérapie, ça fait partie du process, tu penses aussi ?
Ouais, je pense. Mmh. Peut-être que j'aurais besoin d'une thérapie à terme, hein, avec un vrai professionnel. Mais je pense que le fait de m'être livré autant sur cet album, il y a beaucoup de morceaux que j'ai écrits à partir du moment où on a appris sa maladie, etc. Les performer en live, etc., c'est aussi douloureux que ça libère. Mmh. Et je sais pas, écoute, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Donc c'est en ça que je dis que c'est une thérapie. Après, je crois que c'est des années qui parleront.
Mmh. Bah, tant que tu considères que ça te fait du bien, c'est que c'est ta thérapie. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise thérapie, je pense.
Non, après c'est vrai que je suis pas expert en thérapie. Hein. Faut le savoir,
c'est important.
J'ai eu qu'une mauvaise expérience une fois, donc du coup je suis pas retourné.
Ah.
Ouais.
Faut pas hésiter, hein, tu sais, c'est comme un dentiste. Parfois tu peux tomber sur des dentistes nuls qui te font mal ou qui te soignent pas ta dent. Après tu trouves un autre dentiste.
Ouais, mais alors moi je suis très empathique. C'est-à-dire que mon dentiste, par exemple, actuel. J'espère qu'il regardera pas cette vidéo, mais il est vraiment pas exceptionnel du tout. Il rate souvent ce qu'il me fait. Et là, par exemple, j'ai mal aux dents, mais je vais retourner le voir parce que je me dis, c'était pas de bol. Peut-être qu'il fera mieux, tu vois.
Mais c'est... Ok.
Ouais.
Donc c'est... tu préfères vivre avec mal aux dents et plutôt que de changer.
En fait, c'est un dentiste pour moi, c'est comme un bon pote. On le lâche pas à la première erreur. <tu vois. rire> Donc je l'ai pas lâché, ouais. J'ai pas lâché le dentiste et pareil le psy, bah à la fin c'était un peu moi son psy, il était à moitié ivre, il me racontait des histoires sur son couple, et donc voilà.
Et
donc,
tu payais en plus.
Ouais.
Oui,
c'est... Ouais, c'est un c'est peu.
Le mec a trouvé le truc.
Ça m'a appris plein de choses. Du coup j'ai su conseiller mes potes sur 2-3 trucs, j'avais des petits tricks.
Bois de l'alcool.
Ouais,
parce
que
comme mon psy était alcoolique, c'est peut-être ce qu'il faut faire.
Tu vas voir, après, t'auras plein de clients qui viendront quand même.
Alors, spoiler pour les gens du premier, la team premier degré, c'est pas vrai. Hein. Faut pas boire d'alcool.
Pas du tout. Ouais.
Ça marche pas. Ouais.
D'ailleurs, je ne bois pas d'alcool.
C'est vrai que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce rocker en bois qui boit pas d'alcool?
C'est pas du tout ni par croyance ni par conviction. C'est uniquement parce que j'ai eu des très mauvaises expériences du fait d'avoir surconsommé. Et je suis l'exemple de. de. Ne le faites pas, quoi, tu vois. Après, je donne de conseils à personne parce que je trouve ça un peu malvenu. Mais ouais, effectivement, j'ai vraiment chargé le truc, chargé la mule, comme on dit, à un point de non-retour. Et à un moment donné, les médecins ont dit allez, là, faut vraiment tout arrêter, il n'y a pas le choix.
T'as réussi
J'avais pas le choix, donc au final, j'ai. Ouais. Après, j'ai connu des gens par le passé qui n'avaient pas le choix non plus et qui ont continué. Mais...
Oui, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont pas le choix et qui ne peuvent pas faire autrement.
Mais après, ça donne souvent des maladies dont tu t'en sors pas ou de l'hôpital psychiatrique. Dans mon cas, ça aurait été l'hôpital psychiatrique dans un premier temps, je pense. Écoute, je suis pas mécontent d'avoir arrêté. Et au final, en fait, tu sais, le cerveau, il sécrète des drogues tellement plus fort que tout ce que tu peux prendre de chimique.
L'endorphine, par exemple, si tu fais du sport.
Ouais, par exemple. Mais même la... Enfin, tu vois, si par exemple... Ça, c'est un conseil que je donne aux gens qui veulent vraiment être défoncés. Juste, mange pas. Saute un repas, tu vas voir. Tu vas... c'est à peu près le même effet que pas mal de drogues. C'est, du coup, ton cerveau, il sécrète des trucs pour compenser. Et c'est pas joli, hein.
Alors moi, la première fois que j'ai fait du pranayama, je sais pas si tu connais ce truc, c'est du yoga de la respiration.
D'accord.
Donc ils te font faire des mouvements de respiratoire, ils te font surventiler en fait, tu vois. Tu sors de là, mon pote. Mais c'est de la drogue naturelle, hein. T'es là-haut, vraiment très très là-haut, très très perché. T'as jamais testé?
Non, par contre, je me suis hyperventilé plusieurs fois, sans faire exprès.
Juste par stress?
Non, même pas, parce que moi, c'est des trucs un peu perso qui me sont arrivés, mais ouais, effectivement, l'hyperventilation, c'est un truc qui shoot bien, ouais.
Ouais, ça marche bien, hein.
Ouais.
Est-ce que, parce qu'on est là aussi pour parler de toi, quand t'étais petit et de ton parcours, il ressemblait à quoi Benjamin quand il avait 7 ou 8 ans?
Honnêtement, je pense que j'ai jamais trouvé mieux comme comparaison que...
Parce que tu parles souvent de toi?
Quand j'étais petit?
Ouais.
Non, mais bon, tu sais, des fois, tu rencontres des gens et ils parlent de leur enfance. Et du coup, tu te dis comment j'étais, moi, quand j'étais petit. Je cherche. Et je pense que vraiment, c'était... j'étais vraiment Titeuf dans l'ambiance, tu vois. Et je pense que mes potes et moi, on était vraiment de ce niveau-là. Voilà. On avait un niveau très bas. Et en plus, le pire, c'est que... Enfin, du coup, Titeuf, j'ai connu très, 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 très tôt. C'est vrai que mon héros, c'était Sangoku, qui est hyper candide, hyper naïf, etc.
Titeuf, t'étais vieux, en fait, quand Titeuf s'est sorti?
Non. Titeuf, le premier, on me l'a offert, j'avais 11 ans, je crois.
Ah ouais?
Ok. Comme ça.
Ah ouais, donc t'étais en plein...
11-12 ans.
T'étais en plein en Titeuf, quoi.
Ben, en fait, j'étais même plus vieux que Titeuf, tu vois. Mais je me disais, waouh, c'est ouf.
Donc, pardon, je t'ai coupé, mais... C'était fan de Sangoku plutôt, ce qui est...
Ouais, j'étais fan de Sangoku, ouais. Ce qui est au niveau de la débilité, enfin c'est quasiment pareil. Enfin, c'est deux êtres très très naïfs qui comprennent pas le monde dans lequel ils vivent. Et c'était un peu pareil. Mais en fait, j'étais entouré que de gens comme ça. Du coup, mon père est arrivé en France quand il avait 18-20 ans. Et on s'est installé dans un quartier de Paris près de Stalingrad. Et après, on a bougé juste à côté de Gare de l'Est. Il y avait un hôtel juste à côté de chez nous qui était privatisé. Enfin, qui avait privatisé, c'est pas le mot du tout, mais qui avait été, je sais pas comment ils font, mais c'est la mairie qui avait gardé ça pour les réfugiés. Mmh. Donc il y avait des réfugiés politiques de pays très très différents. Il y avait des gens des Sycomores, il y avait des gens de Libye, il y avait des Syriens. En fait, il n'y avait pas l'immigration française due à l'histoire de la France. Mmh. Comme les Arméniens, par exemple, ne le sont pas non plus. C'est pas ça, rien
parce
à voir avec
ton père
France.
Est d'origine arménienne.
Voilà. Ouais. Et donc, du coup, on se retrouvait tous en classe et on se disait... on est d'accord que nous, on ne veut pas être ni Libyen, ni Arménien, ni quoi que ce soit. On veut être Américain. Donc, c'était le but, c'était d'être Américain. Dans la cour, tout le monde avait des origines. C'était... Mais des origines, vraiment... on savait même pas raconter nos origines. Parce que moi, en plus, Arménien d'origine, mais d'Istanbul, donc en Turquie. Donc, quand t'es petit, t'es né en France, tu comprends rien du tout. Et le fait que mon père m'ait dit qu'on avait de la famille aux États-Unis, parce que ma famille est très proche aux États-Unis via Détroit et à Los Angeles, pour moi, c'était simple. J'étais américain, et on était de passage en France. Et donc, on était tous d'accord pour dire ça. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde disait, ouais, on est américain, on est ni libyen, ni quoi que ce soit. Je crois que ça nous a tous unis déjà. Mais quand on s'est tous séparés pour passer au collège, on a tous eu l'air bien cons. Parce que du coup...
T'es juste américain dans votre tête, quoi.
Ouais, voilà.
Dans votre bande.
Ouais, voilà. Et puis même, on retenait rien au cours, on faisait que des histoires où on était et flic, et malfrat, et machin, etc. Enfin bon, bref, on jouait aux dinosaures, à plein de trucs. Et on était... c'est pour ça que je te parle de Titeuf, c'est qu'on était vraiment débiles, mais... Et tu vois, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps où le mec... dit est-ce que tu veux du jus d'orange de pomme ou du jus d'orange de goyave. Voilà, moi j'en étais là, hein. Moi j'ai dit ça jusqu'à mes 12 ans. Hein. Je pensais que le jus d'orange c'était une boisson, genre ça voulait dire du jus de fruits en fait. Donc tu vois plein de trucs comme ça, tu vois, où on a appris plus tard que c'était ça se disait pas comme ça. Et donc ouais, donc il y avait une grande naïveté. Donc je me rapprochais plus de ça quand j'étais enfant.
Comment t'en es venu à faire de la musique alors ?
Ça a été un accident. En fait, mon père faisait de la guitare, mais j'avais pas le droit d'y toucher.
Ah ouais ?
Ouais, j'avais une guitare dans le salon et j'avais pas du tout le droit d'y toucher.
C'est bizarre ça, parce que généralement les darons, ils ont plutôt envie de transmettre ce genre de truc.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Alors oui, et pas les orientaux.
J'ai pas tous les bails.
non mais en fait le truc c'est que sa guitare il tenait vachement et il pensait que j'allais la casser. Donc il voulait pas que j'y touche, j'avais pas le droit. Et en plus pour lui la musique c'était pas du tout un métier. Ce que je peux comprendre parce que du quartier où il venait c'est vrai que bah, artiste c'était pas... Enfin voilà c'était...
Mais de là en faire un métier si tu veux, tu vois, juste...
Ouais mais en fait lui pour lui il voulait vraiment que je sois bon en maths, tu vois. Voilà, ça c'était vraiment le truc, j'aurais pu toucher la guitare si j'avais été bon en maths, le fait est que j'étais mauvais en cours, tout. Donc la punition c'était que j'avais pas le droit de toucher aux instruments non plus. Et j'ai supplié ma mère de m'acheter une basse, premier prix vraiment le truc, à l'époque c'était en francs, enfin, ça coûtait genre 150 francs pour une basse avec un petit ampli, enfin voilà. Et du coup j'ai geeké avec des VHS et des cassettes audio dans ma chambre à me dire, parce que moi ce que je voulais c'était faire partie d'un groupe de rock en fait, parce que moi j'écoutais que du rap et on a déménagé dans une ville en banlieue.
T'écoutais quoi comme rap quand t'étais ado?
L'un de mes groupes préférés c'était La Clinique par exemple.
Okay.
J'adorais La Clinique. C'était ce qu'il y avait à l'époque, il y avait assez peu de groupes comparé à maintenant. Donc il y avait IAM, il y avait NTM qui était un peu les number one. Après moi j'étais très fort My People, j'aimais bien Salif, enfin bon, j'écoutais
c'était
vraiment.
C'était plutôt IAM ou NTM parce qu'il y avait deux teams, hein, fallait pas.
Moi j'écoutais NTM, okay. NTM à fond et IAM un peu en cachette parce que les textes étaient exceptionnels. Enfin Petit Frère c'était ça me parlait vachement.
Mais t'assumais pas trop d'écouter IAM auprès de ta bande.
Bah, en fait, le truc, c'est que ma bande est vite devenue une bande de rockers, du coup. Parce que, ayant quitté mon quartier de Paris pour un quartier de banlieue où il y avait beaucoup de mecs qui écoutaient du rock, du coup, je suis passé très très rapidement à Nirvana, à Korn et à ce genre de groupe de néo-métal. Et donc, du coup, ouais, effectivement, là, NTM, c'était le groupe le plus rock du. Du rap avec Assassin, mais bon, Assassin c'était moins connu. Quoi.
Comment t'en viens
à faire de la guitare,
de la basse à...
Ah ouais. Et donc ouais, en fait, je vois dans le collège qu'il y a plein d'annonces recherche bassiste. Tu vois, il y a un espèce de mur d'annonces pour la musique, et il y a plein de recherches bassistes dans tous les sens. Et je me dis, ouais, effectivement, en fait, personne ne joue de basse. Déjà, la moitié des gens savent même pas ce que c'est qu'une basse. De là, en acheter une et en savoir en jouer. Donc, je me suis buté tout un été à la basse.
Et tu tout seul?
Ouais. Je me suis acheté un magazine qui à l'époque s'appelait Bass Collector. C'était un spin-off de Guitar Part pour bassiste. Et il y avait le bassiste des Red Hot en première page. Et c'était déjà mon groupe préféré à l'époque. Et donc j'ai passé tout l'été à me dire je suis pas plus con qu'un autre, je vais y arriver. Et donc voilà.
Et il y avait pas YouTube à l'époque, tu disais?
Non, il y avait rien.
Que t'avais acheté.
Il y avait un CD.
T'avais quoi
dedans? Il y avait un CD. Et dedans il disait alors voilà pour vous accorder, il y a des clés, il y a des machins. Enfin, c'était vraiment un truc, c'était hyper bien fait, je trouve. Et après, tout le reste, c'était de l'imagination. Mais en fait, tous les matins, je me réveillais en me disant putain, il faut que je passe ce morceau, il faut que j'y arrive, etc. En plus, c'était des morceaux durs. Enfin, j'ai vraiment galéré. Je suis arrivé à la rentrée et j'ai trouvé un groupe tout de suite. Et en fait, ça fait tellement progresser de jouer avec des gens que j'ai réussi. Enfin, c'est vraiment comme ça que j'ai appris, c'est en regardant les gens. Il y avait un guitariste qui n'était pas exceptionnel, mais qui était. assez pédagogique dans sa manière de m'expliquer comment il fallait que je rejoue certaines parties, etc. On avait un batteur qui tenait bien la route, etc. Et puis, je suis passé d'un groupe à un autre, et à la fin, j'ai eu 5-6 groupes. Enfin, j'avais même plus le temps pour l'école. Enfin, j'étais vraiment à fond dedans. Et ça s'est jamais arrêté, quoi.
Mais ton daron, il disait quoi, alors?
Alors, mon daron... Mon daron était dépassé complètement. Lui, il avait beaucoup de boulot, donc il faisait pas vraiment gaffe à mon évolution musicale. Mais pour lui, c'était, enfin, en plus, il venait pas au, ma famille venait pas à mes concerts. C'était pas des gros supporters de tout ça. Et en plus, j'avais un peu honte quelque part parce que vu que c'était pas dans la culture de la famille de faire ce genre de truc, puis vu qu'on jouait des trucs un peu alternatifs, on jouait quand même du métal, des choses comme ça.
De la musique accessible pour la génération de tes
parents. Ouais, je sais pas, j'étais pas à l'aise, j'avais l'impression qu'ils allaient dire que c'était ridicule, tu vois. Enfin, je sais pas, je... Et puis, en plus... Mais par contre, j'étais pas dans le rejet, j'étais plus dans moi et ma honte. Enfin, tu vois, je trouvais que, voilà.
Comment t'as fait pour la dépasser? Parce que je pense, par exemple, aux petits mecs ou aux petites meufs qui sont dans ton cas actuellement,
ouais.
Et dont les parents pourraient pas comprendre, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, alors que c'est leur passion, quoi. T'as
ouais.
fait comment?
Bah, en fait, le truc, c'est que je m'en suis plutôt battu les couilles. Parce que, en fait.
Globalement, une bonne façon de
ouais.
gérer les relations parents.
Bah, disons que, en fait, le truc, c'est que je sais qu'ils avaient ils avaient des forces incroyables, mes parents, de. Ils m'ont aidé sur plein de choses, ils m'ont appris tellement de choses. Éternelle reconnaissance à ça, tu vois. Mais il y avait des trucs sur lesquels on peut pas. Enfin, il y a un moment, il faut prendre son chemin tout seul. Il faut s'affranchir de tout ça et essayer d'avancer au maximum en se disant, au pire, le rêve est pas atteignable. Mais c'est pas grave, mais au moins, je l'aurais tenté. C'est comme le basket, je voulais faire du basket. Au bout d'un moment, tu sens que t'as pas le niveau. Enfin, moi, voilà, je mettais plus mes shoots. On me défendait trop facilement sur moi. J'étais dépassé, j'étais carbo. Il y a un moment où tu dis, ça sera pas la NBA, ça sera pas la Pro A, ça sera pas la Pro B, ça sera la Street. Et c'est déjà pas mal, tu vois. Et la musique, c'est un peu pareil, à l'exception... c'est pas sur du physique, c'est sur de la création, on va dire, et le talent, c'est tellement subjectif qu'on peut plus facilement rêver à être musicien, et je pense que à partir du moment où on en a vraiment l'envie, c'est dommage de pas essayer. Alors faut toujours avoir alors je sais pas si c'est plan A, plan B, je hiérarchise pas, mais c'est toujours bien d'avoir un autre plan à côté, quoi.
Le basket, c'est effectivement beaucoup de travail, mais à un moment donné, où ton corps il suit ou il suit pas, quoi.
C'est ça.
T'as suffisamment petit, grand, costaud, musclé, tu sautes haut, moins haut, etc. Là pour le coup, t'as, alors à part d'avoir des problèmes de doigts ou je sais pas quoi pour la guitare,
et encore,
t'as peu de limites physiques en fait au final.
Ouais, t'en as pas du tout. Après, tu peux en avoir sur le rythme. Il y a des gens qui sont un peu arythmiques. Tu vois.
Et ça se travaille, ça.
Et ça peut se travailler, ouais. Mais je connais des gens, c'est vrai qu'il y a un vrai truc, quoi. C'est une vraie problématique, quoi. Ils dansent pas en rythme. Alors quand ils essayent un instrument, ils essayent. Je sais pas à quel point ils peuvent
réussir à dépasser
ça. Mais alors, c'est une très bonne coïncidence. En général, les gens qui n'ont aucun rythme, en général, ne veulent pas faire de musique de leur vie. Enfin, j'en connais peu. Je connais peu de gens qui arrivent pas du tout, qui mettent pas un truc dedans et qui disent mais c'est putain, mais tu te rends pas compte, c'est ma vie, tu vois. Non, en général, ils ont un taf, ils font quelque chose et puis à côté, ils font la musique. Moi, je sais pas, je sens que j'ai pas le sens du rythme. Et c'est dans ces cas-là où toi, t'arrives et que tu dis oh mais non, mais ça se travaille. Alors que t'en es pas trop sûr, tu vois. Mais non, écoute, en général, après c'est très dur la musique. C'est un milieu très dur. C'est un milieu pas cool. Contrairement à ce qu'on peut penser, y a beaucoup de compétition. En plus, on se livre vachement dans la musique. Ta manière de jouer, c'est un peu comme ta manière de rigoler ou ta manière de converser avec les gens. Donc c'est assez personnel, c'est une partie de toi. Donc c'est vrai que quand on te dit, quand t'es plus jeune, que tu joues pas bien ou que t'es pas dedans ou on te regarde à peine, on dit ouais, bon, votre groupe, c'est pas terrible. Enfin, c'est... C'est à chaque fois le cœur brisé, quoi. C'est pas... Enfin, il y a vraiment... Moi, enfin, tu vois, j'ai eu des télétravails, des choses comme ça. On m'a dit que j'étais nul. J'en avais vraiment rien à secouer. Enfin, tu vois, vraiment... Quand c'est... Mais là, je sais pas, la musique, c'est... En dehors du fait que ce soit une passion, je pense que c'est aussi... C'est une vraie partie de toi que t'exprimes. Tu vois, aussi mal ou aussi bien que tu puisses le faire, c'est un peu comme juger un tatouage. Tu vois. Quand tu vois quelqu'un qui a un tatouage, qui te le montre, lui dire « Oh, je trouve ça pas ouf. » Bah.
Pourquoi tu dis ça déjà ? Faut pas dire ça, enfin, tu vois. Bah ouais. Laisse les gens faire.
Bah, dis rien, en fait. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Et la musique, c'est un peu pareil. Il y a des gens qui viennent et qui émettent des opinions sans voir que, en fait, ça peut te briser, quoi. Faut aller au-dessus de ça.
T'as fait partie d'un groupe aussi ?
De. Ouais, de plusieurs groupes.
De plusieurs groupes, mais ouais. Ton premier groupe, c'était quoi ?
C'était Now Soul & Wax. Ouais, c'était une super rencontre avec.
C'était quand, sa fin des années ?
C'était en 2007, on s'est rencontrés.
Ok.
C'est simple, on s'est rencontrés le lendemain soir du jour où Sarkozy était président. C'est okay. Comme ça qu'on s'est souvenu. On s'est rencontrés, on s'est dit, bah.
Foutu pour foutu.
Ouais, foutu pour foutu, on va faire un groupe. Et mais non, c'était quelqu'un qui faisait des vidéos sur Dailymotion. Et moi, je vais te dire honnêtement, c'était pile mon époque où je venais de monter un label. J'étais très très dans le, entre guillemets, l'espèce de pari un peu alternatif de la musique. Pour moi, Internet et la musique, c'était encore trop abstrait. C'est-à-dire que je savais pas qu'on pouvait du tout faire de covers et faire une carrière en faisant des covers sur Internet. Il m'a fait découvrir ça et il le faisait avec humour, talent. Enfin, je trouvais ça génial ce qu'il faisait. Mais je me rendais pas compte des vues en fait. Parce que à l'époque, on regardait pas le compteur. Enfin, moi, je regardais pas le compteur, je me rendais pas compte, je trouvais ça juste cool.
Tu étais le seul à pas regarder le compteur, je pense.
À l'époque, bah parce qu'en fait, j'en faisais pas, tu vois, de vidéos, etc. Et très très vite, on a commencé à travailler ensemble. On a commencé à faire des compos, etc. Donc, on a fait des vidéos sur sa chaîne. Et là, j'ai fait attention aux vues. Et je me suis dit, mais c'est fou. Enfin, il y a quand même des milliers de personnes qui nous regardent. À l'époque, c'était hallucinant sur Dailymotion. En plus, quand la certification, c'était d'être motion maker. Donc, il y avait des soirées motion maker où on se retrouvait avec. Bah, il y avait des Norman,
à
l'époque, il y avait déjà.
Bah, Cyprien n'était peut-être pas trop dans ce game, il était dans le sud à l'époque. Il était
Cyprien, je me rappelle de l'avoir vu quand même relativement vite. Personne ne comprenait vraiment ce qu'il faisait en fait. C'était ça qui était incroyable. Je vais pas dire génial, genre le passé c'était trop cool. On ne comprenait pas ce qui se passait. Au même titre que.
Côté fait dans le grenier quoi.
Ouais, voilà. Mmh. Et il y avait vraiment un vrai côté Wayne's World où on disait c'est incroyable ce qui se passe. Et puis du coup nous on a signé avec EMI, on a fait des tournées dans tous les sens. PV lui il a monté une chaîne et puis ça a cartonné.
Comment t'as rencontré PV à l'époque ? C'était alors, par ça, pas par
bah oui, en fait, via Now Soul, il s'appréciait. En fait, il appréciait beaucoup le travail de Now Soul et il appréciait beaucoup une émission qu'on faisait qui s'appelait le Now Wax. Et nous, on appréciait vachement son travail. Et en fait, on a commencé. Eux, ils se sont vus une première fois pour faire une collaboration. Il y a deux motion makers qui se rencontrent pour faire des vidéos ensemble. Ça faisait des collabs. Tu vois, c'était donc il y avait encore plus de vues et c'était cool. Et puis le mec était super. Mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. C'est via tout ça. Et puis en fait lui il avait un groupe qui s'appelait les Mami Nova et nous on allait avoir une tournée et on avait signé avec un tourneur etc, mais on n'était pas chaud, on faisait pas de concert encore ensemble. Et la première scène qu'on a fait, c'est PV qui nous l'a offert en première partie des Mami Nova. On a joué tous les deux en duo et c'était mortel, c'était un super souvenir et on s'est jamais vraiment lâché avec PV depuis.
Mais alors attends, c'était quand ça 2000
ça, Now Soul, ça c'est 2008 c'était... le premier concert avec PV Nova.
Waouh.
Fait 11 ans, ouais.
On n'en avait jamais parlé toi et moi, mais non. Je pensais que vous étiez rencontrés beaucoup plus proche du comité.
Ah non.
C'était quand le comité était 2014.
Alors, ce qui c'est de 2014.
Comité de reprise. Donc,
comité de reprise, ouais. Non, bah, ce qui s'est passé, c'est que moi à l'époque j'avais une émission qui s'appelait Now Wax et c'était un peu la V0 du comité des reprises, c'est-à-dire vraiment on était tous les deux sur un canapé, on avait un seul micro et on invitait. Alors on a eu les mecs du Science Soup à Crew, on a eu la Maison Tellier. La première fois que Orelsan fait une promo, c'était avec nous. Et donc il y avait plein de gens dans les promotions de maisons de disques qui avaient notre âge. Et qui nous appelait en disant franchement c'est trop cool votre truc, c'est fun, on va ramener plein d'artistes. On a eu plein de gens qui sont venus et en fait on a laissé tomber au bout d'un moment, on a arrêté le groupe pour des raisons humaines, enfin tu vois, genre des envies d'autre chose quoi.
Les chemins se séparent.
Voilà, exactement. Moi je me suis encore plus mis dans la réalisation d'albums, etc. Guillaume lui est parti vivre dans le sud et à ce moment là Canal+ me contacte pour qu'on fasse éventuellement que je fasse quelque chose sur le grand journal. Je leur ai dit, franchement, je suis incapable de faire ça. Je sais pas du tout. Donc on fait des rendez-vous, etc. De son côté, PV, lui, fait des rendez-vous aussi pour faire des choses à la rentrée prochaine. Et à un moment donné, je l'appelle, je lui dis, t'es contacté par Canal, toi aussi? Il me fait oui. Je lui dis, ça serait peut-être bien qu'on fasse un truc ensemble, en fait. Parce que moi, je me sens pas de le faire solo. Et toi, je sais pas trop, mais... Et donc, lui, il avait un truc sur le Before, mais il n'arrivait pas à trouver son truc, il aimait pas trop, je crois, ce qu'il faisait. Enfin, je crois que ça lui plaisait moyennement. Je veux pas...
Parler à sa place.
Parler à sa place, mais il me semble que ça lui plaisait moyennement. Et donc, on a repris ce concept de Nowax, mais en réécrivant le truc, en le modifiant complètement, en faisant un truc encore plus fun, encore plus... Et puis surtout adapté à YouTube, quoi. Et donc on est allé voir Canal+, qu'on dit ça on prend. Et donc a commencé le comité des reprises comme ça. On se connaissait déjà très très bien.
Okay. Suite à ça, parce que moi je pensais que quand tu te lances avec le comité des reprises et quand tu lances ta chaîne solo, juste après le comité des reprises, donc je me suis dit c'est cool, Wax il se lance. Il démarre dans la vidéo petit bébé, quoi, tu vois. J'avais pas toute cette ref.
Ah ouais, en fait, non.
Parce que t'avais l'air d'être tendu en plus quand t'as lancé ta chaîne perso, c'était un peu.
C'est un peu comme l'album. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai toujours lancé des choses avec des gens.
Ouais, okay.
Je crois que c'est là où je me sens le mieux. Mm. C'est-à-dire que Naosol et Wax, c'était à deux. Mm. Naowax, c'était à deux encore. Comité des reprises, c'est à deux.
Ah oui.
Là, ma
et
chaîne
côté,
solo.
Je suis tout seul.
Tu sais, à chaque fois, on était accompagnés, hein, mine de rien. Mmh. Tu vois, il y avait ou des maisons de disques, ou des producteurs. Là, il y avait Canal+. Enfin, et là, je lance un truc tout seul et je me dis, est-ce que c'est pas ridicule? Qu'est-ce que j'ai vraiment à défendre? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? En fait, je voulais juste avoir cette liberté de me dire, je vais faire un truc où j'aurais pas besoin de demander à 10 personnes de valider. Je vais valider moi-même, et puis on verra si ça marche ou pas. Et c'était ça que je trouvais cool. Hein. Mais c'est un peu comme la thérapie dont on parlait pour l'album. Voir ses propres limites aussi, tu vois. Comment on gère ce truc-là. Mais enfin, je dois avoir la seule chaîne française où le mec ne dit pas un mot, ne dit même pas abonne-toi. Enfin, c'est quand même cata, quoi. Ma première vidéo, elle s'appelait Bienvenue, quoi. Enfin, tu vois, genre, et je faisais de la musique. Enfin, c'est quand même.
Ça donnait le ton.
Ouais, bien sûr, ouais. Ça donne le ton. Le ton, ça a toujours été le même de toute façon. Mais quand je voyais les autres se professionnaliser de plus en plus, mettre des vignettes, des machins, etc., je trouvais ça génial. Mais moi, pour ma chaîne, du coup, je suis passé un peu à côté de tout ça. J'ai un peu fait. Tous les trucs sont en anglais. J'ai fait que des trucs avec des gens qui étaient absolument pas connus. Alors, tu vois, je passe mon temps en vacances avec Norman, etc. Tu vois, j'aurais pu faire des collabs qui auraient pu apporter pas mal d'abonnés à la chaîne, etc. Je sais pas, écoute, j'ai préféré faire des trucs avec Pomme, qui était à l'époque, comme moi, on n'était pas
très connus
du tout. Faire plein de rencontres, du coup. En fait, cette chaîne, elle m'a permis de rencontrer plein de gens. Mmh. De Pomme à Chek Chek Go, à Giorgio, à Ben L'Oncle Saul. La plupart des gens d'ailleurs avec qui j'ai fait des vidéos sur la chaîne, j'ai réalisé leur album derrière, tu vois. Donc c'est que des belles histoires, en fait. Cette chaîne YouTube, c'est mon petit bébé, tu vois. Ça m'a apporté plein de trucs et j'ai envie de faire plein de trucs encore dessus. C'est génial, une chaîne YouTube, parce que ça meurt pas vraiment, en fait.
Oui. Peut-être un jour YouTube fermera.
Oui, oui, bon, bien sûr.
Peut-être que ce sera la guerre, on ne sait pas.
Je serais triste.
Oui, il faut.
Ouais.
Ouais, il y a un truc aussi qui m'a fait sourire quand j'ai découvert que tu avais enfin lancé ton album. C'est que quand on parlait, toi et moi, tu disais toujours, mais moi je ne chante pas, hein, il n'est pas question, hein, je ne sais pas chanter. Hein. Comment tu as fait pour dépasser ce truc? C'était quoi? C'était un complexe d'ailleurs, non?
En fait, le truc, c'est que j'ai chanté il y a plus de 10 ans. Moi, je faisais la musique de Paris Dernière avec Béatrice Ardisson.
Ah oui.
Et on faisait des covers décalés, etc. Et on faisait des albums.
C'est toi qui faisais les covers de Paris Dernière?
Je faisais la DA.
J'ai pas bossé ta bio, moi, tu sais.
Non, mais ma bio, en fait, elle est inconnue. Hein. Faut savoir, je parle à personne de mes histoires.
Donc Paris Dernière, pour les gens qui connaissent pas, en fait, c'était une émission qui passait le soir sur Paris Première, le vendredi soir, si je me trompe pas, ou le samedi soir, je sais plus.
C'était le vendredi soir, il me semble.
Voilà.
T'as raison.
Et qui explorait un petit peu les recoins sombres de Paris la nuit.
C'était
Paris by Night.
C'était assez sombre. Et la BO, c'était que des covers. Ouais. Mais repris avec plein de styles. Donc du coup, il y avait plein de gens qui venaient. Il y avait des acteurs. Il y avait Lena Noguera qui est venue, Zoé Félix. Enfin, t'avais plein d'actrices.
Ils ont fait des albums et tout derrière après.
Ouais, ouais, on a fait. Moi, j'ai participé à 4 albums.
C'était les covers avant la mode des covers.
Ouais, fait, voilà, exactement. C'était en pleine époque où il y avait aussi Nouvelle Vague, Marc Collin qui faisait Nouvelle Vague. Il y avait un espèce de truc comme ça, mais c'était assez arty. Tu sais, c'était pas grand public.
C'était parisien, quoi.
Ouais, c'était un peu parisien, voilà. On va pas se cacher, c'était un peu parisien.
Moi, je regardais ça depuis Lille, je trouvais ça marrant. Je regardais les émissions, je trouvais que les covers étaient géniales, quoi.
Bah écoute, merci si c'était celle auquel j'ai participé. Et puis, en fait, le truc, c'est que je chantais. Alors, j'ai fait genre des covers de Johnny Cash, de Beck, de plein de mecs. Mais en fait, il n'y avait pas ma tête. Donc, si tu veux, on savait pas qui était ce Wax, on savait rien du tout, tu vois. Et d'ailleurs, des fois, j'entends, tu vois, je suis dans des bars à Paris, tu sais, où ils passent de la musique un peu lounge, un peu machin, et j'entends que je chante sur un titre, ou j'entends que je chante avec Mathieu sur des trucs, et je me dis, waouh, c'est fou, j'en ai jamais parlé de ces trucs-là. Donc, non, en fait, je savais que j'étais capable de chanter, mais de défendre un titre en le chantant et de défendre mon texte, c'était ça dont je complexais énormément. C'est-à-dire que chanter à la limite, bon, mais et en plus j'aime pas improviser, j'aime bien bosser longtemps. Et c'est vrai que quand on me dit bah tiens, t'as une guitare, ça te dirait pas de chanter un truc? Non, moi si je bosse pas le truc, c'est hors de question. Il faut que je bosse le truc, il faut que je me sente à l'aise.
Donc t'es un peu relou, t'es le gars qui sait super bien jouer et qui dans les soirées sort pas sa guitare pour faire un petit truc, quoi.
Jamais.
Tu fais pas ça.
Jamais. J'ai... C'est
à quoi ça sert alors de savoir chanter? Je pensais que ça servait à ça.
Ouais. C'est vraiment la carte que j'utilise, que j'ai jamais utilisée. Mmh. Voilà. Je suis très très pudique. Alors c'est fou parce que je peux jouer devant des milliers de personnes. Ça me fait que du bien, que plaisir, tu vois. Parce qu'en fait, je suis dans le bon élément. C'est-à-dire, il y a une scène, il y a un public, c'est le bon élément.
Des gens qui sont venus te voir, etc.
Voilà. Ça serait comme pour moi faire de la plomberie dans la rue. Tu vois, tu prends une cuvette et tu commences à faire de la plomberie. Tu sais, c'est très bizarre. Après, je dis pas, il y a des gens qui vont sur la plage, qui jouent. C'est incroyable, c'est super. C'est rare.
C'est rare que ce soit super, tu vois.
C'est rare que ce soit super. En général, c'est pas excellent. Et tant mieux. Moi, je suis pour que les gens ils puissent s'exprimer à fond. Moi, c'est juste que...
C'est pas ton truc.
Je suis timide. Voilà. C'est tout. Quand je te dis l'histoire de faire de la plomberie dans la rue, c'est moi. C'est dans ma tête, tu vois. Au contraire, je verrais un mec faire de la plomberie dans la rue, je trouverais ça génial.
C'est pas pour toi.
Mais non, moi, je peux pas. Moi, je fais rien dans la rue, de toute manière, à part... acheter des clopes. Ouais, c'est pas bien de fumer.
Tu sais, on avait eu Raphaël Descraques et on lui avait demandé quelle était sa routine cheveux.
Ouais.
Il avait expliqué un petit peu. Et toi, c'est quoi ta routine beauté? Parce que bon, pour les mademoiselles qui te regardent.
Alors, ma routine beauté, en général, elle est hyper simple. Je me réveille. C'est uniquement beauté, hein. Je me réveille et je me regarde dans la glace, je me dis je ressemble vraiment à un cocker. Et donc je m'attache les cheveux, tu vois. Je fais exactement comme ça, je vous montre comme ça. J'ai un double élastique. Et donc je fais hop, un nœud, hop, un deuxième nœud, et après un troisième nœud pour que ça tienne vraiment toute la journée. Et voilà, et je reste comme ça toute la journée. C'est ça ma morning. Et en fait, tout à l'heure, je suis parti de chez moi à la bourre. Et donc, j'ai oublié de me regarder dans la glace pour faire le truc. C'est pour ça que j'avais les cheveux détachés, mais je les attache de plus en plus.
En tout cas, bravo pour ces cheveux. Hein.
Bravo pour ces cheveux.
Bah oui, c'est... Quel talent.
Bah, t'as vu. Bah, ouais,
c'est
ouais.
Je suis jaloux. Hein,
je me prends la tête. Hein.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Ben. C'était cool.
Bah oui. Et moi, je voulais surtout te dire merci, ouais. Parce que depuis le début, vous m'avez toujours soutenu et vous avez toujours été mon... C'est pas mon baromètre, mais à chaque fois que je sortais quelque chose, je demandais toujours l'avis à Mimi, à toi, de si vous pensiez que c'était bien ou pas, etc. Pour moi, mon aventure du web, depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis l'époque du comité des reprises, c'est avec vous, quoi. Enfin voilà, j'ai à chaque fois que je sors un truc, je demande toujours à Mimi ou à vous vos avis, etc. Vous avez toujours été là et je suis trop trop content qu'on continue à faire les choses ensemble.
Trop bien, et ben, c'est à ça qu'on sert sur Mademoiselle, c'est de faire découvrir les petits jeunes qui n'en veulent, même s'ils sont plus petits jeunes.
Ouais. C'est vrai.
Non mais t'as toute une carrière quoi, tu vois, et
ouais.
Là tu te lances dans une nouvelle carrière.
Ouais, un nouveau truc.
Bravo Wax.
Bah ouais, c'est ça la dernière question.
Grave.
Ouais, ça alors.
À bientôt, salut.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.